Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série, on peut dire notre complément aux séries précédentes, donc concernant la démonologie. Nous arrivons à l'étude numéro 12 et nous continuons les cas de délivrance. Le cas numéro 3 aujourd'hui, il s'agit de Sam qui a 18 ans. Sam se trouvait un soir dans sa chambre lorsqu'il sentit soudain une odeur affreuse semblable à du soufre enflammé. Tout à coup, deux énormes démons lui apparurent, jaillissant du sol de sa chambre. Les démons lui dirent qu'il n'était pas le chrétien qu'il croyait être, et lui dirent qu'il servait en réalité Satan et que Satan exigeait que Sam signe un contrat avec son propre sang pour se vendre entièrement à Satan, corps, âme et esprit. Ils poursuivirent en disant que Sam devait démontrer sa fidélité et sa soumission absolue à Satan en tuant la personne qui apportait l'étude biblique qu'il suivait du reste en ce moment-là. Après avoir dit tout cela à Sam, les démons disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Sam se demanda tout d'abord s'il n'avait pas rêvé, mais toute cette expérience était bien trop réelle pour avoir été un rêve. Il parla de cette expérience à la personne qui animait l'étude biblique. Dire que Sam avait été secoué et employé une expression bien faible, car avant d'avoir été ainsi visité par des démons, Sam ne croyait même pas que ça pouvait exister, les démons. Et il n'aurait certainement jamais pensé qu'il pouvait venir lui parler. Manifestement, il y avait bien plus de choses dans la vie de Sam que la visite de ses démons. Je veux à nouveau insister sur le fait que vous ne devez pas vous laisser égarer par les symptômes visibles ou par un événement donné. Il y a toujours une cause profonde. Voici son histoire. Nous allons voir cela de plus près, évidemment. Mais tout d'abord, je voudrais simplement vous dire que toutes ces choses peuvent vous paraître invraisemblables, mais croyez-moi, elles sont hélas une réalité. Sam était né de parents chrétiens. Il fut élevé dans un foyer chrétien très strict et ne fréquenta que des écoles chrétiennes. À l'âge de 5 ans, Sam fut visité par Jésus qui l'appela à prêcher l'évangile. En conséquence, Sam avait eu toute sa vie le projet de devenir pasteur. Tout alla bien jusqu'à ce que Sam avait atteint l'âge de 13 ans. Brusquement, à son grand dégoût, Sam commença à éprouver de très fortes tendances homosexuelles. Sam n'avait jamais fait l'objet de violences sexuelles. Il n'avait jamais touché à la pornographie ni à aucune forme d'homosexualité. Il n'écoutait pas de musique rock, il n'allait pas au cinéma et il ne regardait même pas la télévision, si ce n'est à de très rares occasions. Sam savait, par la parole de Dieu, que l'homosexualité est une abomination pour le Seigneur. et n'osa parler à personne de son problème, parce qu'il ne connaissait personne qui aurait pu le comprendre. Sam luttait seul contre ses tendances homosexuelles. Il ne commit aucun acte homosexuel. Mais plus il luttait pour chasser de ses pensées ses désirs et ses pulsions, et plus sa situation lui semblait empirer. À l'âge de 15 ans, Sam entra dans un lycée chrétien. Ses désirs homosexuels grandissaient régulièrement et atteignirent une telle puissance que Sam s'enfonça dans une profonde dépression, tellement son problème lui semblait insoluble. Ses résultats scolaires commencèrent à en souffrir, car il avait toujours été un excellent élève. Vers la fin de sa première année de lycée, Sam était tellement dépressif qu'il a fait une tentative de suicide en absorbant une grande quantité de médicaments. Il fut rapidement conduit à l'hôpital aux urgences, sans connaissance, mais on a pu lui sauver la vie. Sam alla voir le pasteur de son église pour être conseillé, mais il ne parvint pas à avouer au pasteur quel était son véritable problème. Sa tentative de suicide fut mise sur le compte d'une réaction au stress entraînée par la fréquentation d'un nouvel établissement et par sa première année de lycée. Lorsque Sam commença sa seconde année de lycée, il se mit à boire de l'alcool pour tenter de surmonter sa dépression. Comme l'alcool lui enlevait ses inhibitions, Sam commença à avoir des contacts homosexuels. Il haïssait ce qu'il faisait et savait qu'il ne devait pas le faire, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Sa vie devint un cycle sans fin de repentance et d'appel au secours adressé à Dieu, puis de dépression parce qu'il ne voyait venir aucun secours et de retour à la boisson pour surmonter la dépression et enfin de nouvelles expériences homosexuelles qui le plongeaient à nouveau dans la culpabilité et dans la repentance. Ce cycle se produisit constamment tout au long de ses 3 dernières années de lycée. Sam remarqua qu'après sa première expérience homosexuelle, il se mit soudain à avoir de violentes accès de colère et qu'il avait beaucoup de mal à dominer de terribles crises de fureur. Sam se rendit compte qu'il avait presque constamment la pensée de tuer carrément quelqu'un. C'était quelque chose que Sam n'avait jamais ressenti auparavant. Ceci augmenta encore sa culpabilité, sa dépression, son alcoolisme et renforça tout ce cercle vicieux. Après avoir obtenu son bac, Sam s'inscrivit dans une université chrétienne où il projetait de faire des études pour devenir pasteur. Il rompit tout contact avec ses partenaires homosexuels pendant l'été précédant la rentrée scolaire et commença à suivre une étude biblique spéciale dans le but de l'aider à résoudre définitivement son problème. Ce fut en août, un mois avant que Sam ne parte pour rejoindre l'université, que les démons lui apparurent. Après avoir écouté le récit de Sam, nous nous trouvions confrontés a deux problèmes principaux. Bien entendu, des démons étaient entrés en Sam par la tentative de suicide, par la boisson et par les actes homosexuels. Mais d'où provenaient ces désirs homosexuels? C'était la première chose à savoir. Ils provenaient certainement d'un démon qui était entré en Sam, mais par quelle porte d'entrée? Le second problème était le suivant. Il était clair que Dieu avait adressé à Sam un appel particulier. Aussi, son pasteur continuait à le questionner. « Dis-moi, Sam, as-tu donné une réponse en son temps à ces démons ?» Sam hocha la tête. « Non, non, non. Pour me dégager, j'ai voulu leur dire que je ne servirai jamais Satan, mais je n'ai pas pu le faire. Je ne comprends pas pourquoi. » « Bien, dit le pasteur, prends alors ta décision définitive, Sam. Qui veux-tu vraiment servir ?» Sam se rassit, vaincu. « Bien sûr que je voudrais me décider pour Jésus, mais je ne le peux pas. »« Ah oui, cela ne sert à rien. » car je suis incapable de prendre une décision maintenant. Non, 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 ce n'est pas cela, Sam. Ce que tu ne comprends pas, lui dit le pasteur, c'est que les démons qui sont en toi te ligotent littéralement et t'empêchent d'accepter Christ. En fait, il te tient depuis ton enfance. Tu sais que tu as été appelé à un ministère par Jésus-Christ, mais tu n'as jamais réussi à faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Sam approuva. Oui, vous avez raison. Je ne pouvais le dire à personne dans ma famille ni dans mon église. Ils savaient tous que j'avais été visité par Jésus à l'âge de 5 ans. Ils savaient tous que j'avais été appelé à prêcher l'Évangile. Comment pouvais-je leur dire que je n'étais peut-être même pas sauvé vraiment? Cela m'était tout simplement impossible. Pasteur, je m'adresse à vous. Je m'adresse à tous les pasteurs qui écoutent maintenant. Combien de personnes ont ce même terrible problème dans vos propres églises? Je vous exhorte à vous prosterner sur votre face devant le Seigneur pour le savoir. Puis parlez à vos brebis. Dites-leur que ces problèmes existent afin qu'ils n'aient pas peur de vous en parler. Le pasteur demanda ensuite au diacre qui travaillait avec lui de oindre Sam d'huile et de prendre autorité sur les démons qui étaient en lui en les liant au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait. Avant que ce frère ait eu le temps de terminer sa prière, Sam s'abattit de sa chaise et se jeta à genoux à terre. Il était totalement brisé. Les larmes coulaient le long de son visage. Il pleura abondamment et pria Jésus de lui pardonner ses péchés et de le laver dans son précieux sang. Il demanda à Jésus-Christ de devenir son sauveur, son Seigneur et son maître, et consacra entièrement sa vie à Christ. Sam poussa un certain temps à pleurer, il était là, et il a passé un certain temps à pleurer devant le Seigneur, et à confesser tous ses péchés. Je veux et je peux maintenant vous dire que lorsqu'il se releva, c'était un jeune homme qui était devenu complètement changé. À présent que Sam était réellement sauvé, nous avons pu commencer à rechercher la cause fondamentale de son problème. Je savais par expérience que les démons associés au péché sexuel sont soit hérités des parents, soit introduits dans les enfants à un âge très précoce. Ils manifestent ensuite leur nature hideuse à la puberté. Lorsque ces enfants ont atteint l'adolescence, entre 12 et 14 ans, et que les hormones commencent à agir dans leur corps, ces démons sexuels sortent de l'ombre et prennent le contrôle de leur vie. C'est ce qui s'était passé pour Sam. La mère de Sam descendait de générations de chrétiens. Mais l'histoire de son père était totalement différente. Avant d'épouser sa mère, le père de Sam avait eu de très nombreuses expériences sexuelles, bien que Sam ne connût aucun antécédent d'homosexualité chez son père. La mère de Sam se fiança à son père, tout en sachant très bien qu'il n'était pas encore chrétien. Finalement, la veille de son mariage, sa mère dit à son futur mari que s'il n'acceptait pas Christ le soir même, il n'y aurait pas de mariage le lendemain. Le père de Sam fit donc une profession de foi dès ce soir-là. Mais on peut se demander s'il était vraiment sincère. Sam dit que leur foyer ne fut pas un foyer particulièrement heureux, mais que, à sa connaissance, son père n'a plus eu aucune aventure sexuelle en dehors du mariage. Il allait régulièrement à l'église, mais sans grand enthousiasme. Nous avions découvert la cause du problème de Sam maintenant. C'était peut-être l'hérédité paternelle. Ensuite, Sam pria pour fermer toutes les portes d'entrée et chassa tous les démons qui étaient venus en lui par ces portes d'entrée. En résumé, ces portes d'entrée étaient les suivantes. Il y avait l'hérédité, il y avait la tentative de suicide, il y avait l'alcoolisme, il y avait les pratiques homosexuelles et la violence. La violence et le meurtre sont étroitement associés aux démons d'homosexualité. J'ignore pourquoi il en est ainsi, mais c'est souvent une réalité qui a été constatée. Lorsque Sam a achevé de chasser tous les démons, le pasteur lui dit « Sam, il faut encore que tu fasses quelque chose que tu n'as pas encore fait. » Il regarda le pasteur d'un air interrogateur. Qu'est-ce donc? Eh bien, tu n'as pas encore donné à ces démons et à Satan une réponse directe à leur demande de les servir. Un grand sourire éclaira le visage de Sam et il se leva d'un bond. « Vous avez parfaitement raison, » s'exclama-t-il. « Eh bien, Satan, et vous, les démons, je ne vous servirai jamais, jamais tant que je vivrai. Je suis maintenant un serviteur de Jésus-Christ, et c'est lui que je servirai toujours. Au nom précieux de Jésus-Christ, mon Seigneur, je vous commande de me quitter pour toujours et à jamais. » Le combat ne fut pas facile, mais Sam continua de grandir dans le Seigneur. Il n'est pas retombé dans la boisson ni dans l'homosexualité depuis sa délivrance. Je loue donc le Seigneur pour l'œuvre merveilleuse accomplie dans la vie de Sam. Je vais à présent vous parler rapidement d'un certain nombre d'autres cas particuliers. La délivrance d'anciens adeptes de religion orientale. Ça, c'est un domaine de la délivrance pour laquelle je reconnais volontiers avoir plus de questions que de réponses. Ceux qui suivent des religions asiatiques et qui pratiquent les formes orientales de méditation ont pris l'habitude d'avoir une intelligence extrêmement passive. L'autre problème important est l'utilisation intensive de techniques destinées à produire un lavage de cerveau, ainsi que l'usage de l'hypnose. Ces techniques entraînent de profonds liens démoniaques dans leur intelligence. Ces liens se manifestent lorsque une image, un mot, un geste, ou même une simple odeur provoque une transe instantanée et une prise de contrôle immédiate par des démons. Actuellement, je ne sais pas exactement comment procéder pour enlever complètement ces liens démoniaques. Une telle personne peut sembler complètement délivrée, mais va soudain entrer, sans raison apparente, dans une transe, c'est-à-dire dans un état de conscience où son intelligence ne fonctionne plus et où elle perd le contrôle d'elle-même. Cet état de conscience, bien entendu, permet aux démons de pénétrer en masse à l'intérieur de ces personnes. Je vois de nombreux cas semblables chez ceux qui sortent d'engagements divers dans les mouvements du Nouvel Âge. Tous ceux qui se mettent sous la domination d'un gourou quelconque, franchissent une étape supplémentaire qui est très dangereuse. Voyez-vous, les satanistes occidentaux savent qu'ils font le mal, mais ils acceptent volontairement de le faire pour avoir de la puissance. Ceux qui tombent sous la domination d'un gourou perdent la capacité de distinguer le bien du mal et acceptent le mal en croyant que c'est le bien. Je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui soit allé aussi loin et qui ait été délivré. Le principal problème rencontré par tous ceux qui ont abandonné une forme quelconque de méditation orientale ou une religion asiatique, c'est de vaincre la passivité de leur intelligence. Veillez attentivement à cela. La seule chose qui empêche les démons d'agir librement au travers des êtres humains, c'est l'usage de notre libre arbitre et de notre volonté. Dieu a donné à chacun de nous le précieux don d'une volonté libre. Le but de toutes les religions orientales est d'amener les êtres humains à abandonner complètement leur libre arbitre et l'usage de leur volonté. Ceci permet aux démons de prendre le contrôle de leur vie et de les utiliser comme ils le veulent. Je crois que c'est un péché grave que d'abandonner l'usage de notre libre volonté. Dieu lui-même refuse de violer notre volonté. Les Saintes Écritures nous disent que le Saint-Esprit œuvre en nous pour produire en nous la volonté d'obéir à la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 13. Je conduis souvent les gens à demander pardon à Dieu parce qu'ils ont abandonné l'usage de leur libre volonté et à le prier de leur rendre l'usage de cette libre volonté. Ceci semble être absolument la clé pour les aider à prendre autorité sur les démons qui sont en eux. Je n'insisterai jamais assez sur le besoin de délivrer les enfants de leur plus jeune âge. Parents, si vous avez prié pour que des portes d'entrée aux démons soient fermées dans votre vie, eh bien vous devez aussi couper les liens d'hérédité qui tiennent, on peut bien dire, qui tiennent carrément vos enfants captifs. Et vous devez donc commander aux démons qu'ils ont reçu par hérédité de partir de leur vie maintenant. La délivrance des enfants élevés par des parents qui pratiquaient l'occultisme, c'est très difficile. C'est encore un domaine où j'ai plus de questions que de réponses à apporter. Dès qu'un enfant atteint l'âge d'environ 4 ans, il apprend rapidement à contrôler les démons qui sont en lui. C'est à ce moment-là que de terribles problèmes commencent. Les petits-enfants ont beaucoup de difficultés à être cohérents avec eux-mêmes. Bien plus, il est très difficile de persuader un petit enfant qu'il ne devrait pas faire quelque chose dont il tire un avantage. Si vous chassez des démons d'un enfant, dès que celui-ci voudra obtenir quelque chose qui est hors de sa portée, il demandera lui-même au démon de revenir en lui pour qu'il l'aide à obtenir ce qu'il désire. Ça, c'est un cycle qui semble sans fin. Ne sous-estimez donc jamais la puissance démoniaque dont peuvent faire preuve des enfants. J'ai hébergé, a dit un pasteur. Ce pasteur dit ceci: j'ai hébergé un petit garçon de 6 ans pendant 4 mois. Il avait été élevé dans un groupe de satanistes. Il avait une telle puissance dans l'utilisation de la sorcellerie qu'il tua l'un de nos animaux simplement en le regardant fixement. Cet enfant avait été spécialement mis au monde dans le but d'occuper une position très élevée dans le satanisme, et il avait reçu de très puissants démons à sa naissance. Il contrôlait tous les enfants de sa classe à l'école, de même que ses maîtres. Lorsqu'il commença le cours préparatoire, il apprit à lire en 2 jours, aussi bien que ceux qui avaient 2 années d'école de plus que lui. Bien entendu, c'était son esprit guide démoniaque qui lisait pour lui. Alors, parents, surveillez attentivement vos enfants pour voir s'ils ne présentent pas des symptômes de démonisation. S'il y a des signes de maturité sexuelle ou d'intérêt pour la sexualité qui vont au-delà de la normale pour leur âge, cela devrait être pour vous un signal d'alarme très particulièrement fort. Un autre signe évident est la tendance à tuer, que ce soit des hommes ou des animaux. Je recommande fortement, pour ceux qui comprennent l'anglais, la lecture du livre du docteur Dobson, The Strong-Willed Child. Ce livre ne parle pas des enfants possédés par des démons, mais les principes exposés dans ce livre seront une aide très précieuse pour les parents qui ont de tels enfants. Ces parents doivent donc absolument être tout à fait cohérents dans leur manière de discipliner de tels enfants. Il faut enseigner à l'enfant que la vie est bien plus agréable quand il ne laisse pas entrer de démons en eux que lorsqu'ils les laissent entrer. Les parents doivent lier les démons qui se trouvent dans leurs enfants avant de punir l'enfant. Sinon, l'enfant utilisera ses démons pour éviter de ressentir la moindre douleur. Les dessins animés qui se font aujourd'hui par toutes sortes de moyens techniques peuvent être également très, très dangereux. Le problème principal du catholicisme romain, c'est évidemment l'idolâtrie de certaines de ses pratiques. De fréquentes visions et expériences dans le monde spirituel. Ceci résulte des communications et prières occultes qui sont adressées aux esprits des morts, comme par exemple à la Vierge Marie et aux divers saints. Il est donc fréquent qu'un lien puisse être établi entre l'âme et l'esprit. Symptômes provenant, on peut dire prouvant, qu'il y a un lien qui peut être établi entre l'âme et l'esprit. Et c'est en effet une réalité. Les relations sexuelles existent avec des démons, même si vous pensez que c'est une aberration et que c'est incroyable. Or, c'est un sujet dont peu de gens acceptent de parler par crainte d'être ridiculisés. La plupart des chrétiens se mettent à rire rien que de penser à ce sujet et disent que cela est absolument impossible. Mais les occultistes connaissent la réalité de ces relations sexuelles, de même que le monde qui nous entoure. La chaîne CBS a publié un film de 2 heures à un moment d'audience maximum. Ce film intitulé « L'entité » raconte une histoire véridique qui s'est passée à Los Angeles en 1976 et qui a fait l'objet d'une enquête menée par des chercheurs de l'université UCLA de Californie. C'est l'histoire d'une jeune femme divorcée qui élevait seule ses 3 enfants. Soudain, un soir, elle fut attaquée et elle fut violée par un être invisible. Ce film décrivait parfaitement la totale impuissance éprouvée par un être humain face à une puissance démoniaque. Si seulement cette femme avait été chrétienne, et si elle avait connu la puissance du nom de Jésus-Christ, à la fin du film, il était dit qu'elle avait à présent déménagé au Texas, mais qu'elle continuait plus de 10 ans après à souffrir de toutes ces attaques, quoique beaucoup moins fréquemment maintenant. Combien je prie que le Seigneur permette à cette femme de rencontrer un chrétien qui lui, on peut dire, qui lui rira pas au nez en l'écoutant et en lui disant qu'il est impossible qu'elle fasse de telles expériences, mais au contraire qui lui apportera, à la place de se moquer d'elle, qui lui apportera la réponse et lui fera connaître la puissance de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez lire un autre livre qui traite brièvement de tous ces problèmes, procurez-vous le livre « The Earth's Earliest Age » de G.H. Pember. Il est publié par Kregel Publication, Grand Rapids, Michigan, USA. La Bible, dans la Genèse, chapitre 6, verset 8, et dans d'autres passages, nous laisse peu de doutes quant à la validité de telles expériences. La seule manière de s'en sortir est de combattre. Une jeune femme d'une 30aine d'années qui avait subi d'excessives violences sexuelles quand elle était dans le satanisme, après avoir connu le salut et la délivrance, elle connut pendant un temps de terribles combats contre les démons qui venaient la violer pendant la nuit. Tout d'abord, elle leur céda à cause des terribles souffrances physiques qu'elle subissait si elle tentait de leur résister. Elle lut un jour un livre, c'est-à-dire le vieux livre que vous connaissez tous, la Sainte Bible. Et vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, a-t-elle lu dans Hébreux, chapitre 12, verset 4. Elle a lu, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La fois suivante, quand de nouveau les démons sont venus, lorsque un démon est venu pour avoir des relations sexuelles avec elle, elle a commencé à lui résister au nom de Jésus. Elle le lia avec autorité et lui ordonna de partir immédiatement. Les démons provoquèrent une très violente douleur dans son corps, mais elle tient ferme et continua à leur résister et à leur commander de partir au nom de Jésus. Cette jeune femme était fermement décidée à résister jusqu'au bout, quelle que soit la douleur que les démons lui infligeraient. Et c'est ce qu'elle a fait. Et le démon a dû finalement la quitter sans avoir pu entrer en relation sexuelle avec elle. Il ne lui fallut en tout que 3 combats similaires pour remporter une victoire totale par l'aide et en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs à l'écoute, ces problèmes sont tout à fait réels. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons avoir beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour aider les personnes qui ont de tels problèmes à remporter finalement la victoire. C'est à nous que incombe la tâche de les aider, de venir à leur aide. Avant de terminer par la prière, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour fortifier votre fermeté dans la parole de Dieu, pour votre enseignement personnel, mais aussi pour votre encouragement. Voici. Je te remercie, Seigneur, pour la joie que tu mets en moi et pour tes soins attentifs. Oui, prenez de plus en plus conscience, vous qui écoutez, de cette bienheureuse réalité. Persuadez-vous toujours mieux que le Seigneur Jésus-Christ domine toutes les situations. La vie alors sera toujours davantage pour vous une occasion de vous réjouir. Et cette joie, nul ne pourra vous la ravir. Saint Jean, chapitre 16, verset 22. Il s'agit ici d'un avant-goût du ciel qui fera de la mort pour vous une promotion plus tard. Alors, votre esprit ne se sentira pas étranger dans la demeure des esprits, mais il respirera une atmosphère enfin conforme à sa nature et dans laquelle il se sentira totalement à l'aise. En sa qualité de maître des maîtres de l'humanité, il vous instruit bien plus par la parole vécue, incarnée, que par la parole en tant qu'enseignement. Laissez-vous instruire par lui, disait-il, car il est doux et humble de cœur. Saint Matthieu 11, verset 29. Pour mieux amener ses disciples à contempler en lui le grand exemple dont ils auraient à s'inspirer, il se déclarait doux et humble devant son Père des cieux et devant ses autres enfants. Premièrement, il est en présence de Dieu le Père, la douceur obéissante d'une volonté entièrement soumise. Deuxièmement, il est devant ses autres enfants. L'humilité vraie, totalement exempte de l'orgueil qui sépare les hommes et les empêche eux-mêmes de s'approcher de Dieu en toute modestie. Laissez-vous donc instruire par lui, car il est doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Saint Matthieu, chapitre 11, versets 29 et 30. Maintenant, nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur, aide-nous toi-même à te prier, que nos âmes s'attendent à toi dont le regard est la délivrance même. Ne nous abandonne point, ne t'éloigne point de nous, car comment pourrions-nous subsister sans ton secours et ta protection ? Nous devons donc te supplier de soutenir notre courage, notre espérance, de les rendre inébranlables, de nous donner une confiance sans borne en toi, en ta sagesse et en ta bonté. Nous devons chercher en ta sainte parole toutes les directions qui nous sont nécessaires. Nous devons nous appuyer sur toi sans cesse et ne point assez présumer de nous-mêmes pour oser nous éloigner de toi un seul instant. Mais Seigneur, nous pouvons vivre sans cette communion intime de nos âmes avec toi que si nous te cherchons en Jésus-Christ, en ton Fils, en notre unique Sauveur. Que nos âmes le cherchent donc, que nos cœurs s'attachent étroitement à lui, que nos bouches confessent et invoquent son saint nom. Augmente-nous la foi et donne-nous là à ceux qui ne la possèdent pas encore. Pendant cette journée, aie pitié de tous ceux qui souffrent. Protège et bénis nos familles et nos amis. Dispose-nous tous à recevoir avec amour, avec joie, toutes des dispensations à notre égard. Seigneur, si tu nous laisses vivre encore, que ce soit pour te mieux connaître, pour t'aimer et pour te servir. Si tu nous appelles à apparaître devant toi, que ce soit pour parvenir au salut éternel par Jésus notre Seigneur, afin que soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous soyons éternellement avec toi. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et il est vrai que Dieu vous aime. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et je vous embrasse maintenant de tout mon amour. Et je vous demande, n'oubliez jamais que nous devons prier les uns pour les autres. C'est notre devoir. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très très chers amis.